everybody. Get on your walking shoes. Start to climb the mountain.
Hey, here we go.
Let's take a trip. Let's take a trip. Let's start to dream. Let's close our eyes. It's groovy now. Yeah. Float. Because I'm swimming in beauty. It's all around. Let's take a trip. Climb from the ground. Whoa! Whoa! Oh, yeah! Let's take a trip. It's really hip. No one will know what goes on. Just you and me. And the dreams we see. Oh, come on, baby. Oh, come on, baby. You're doing it right. Just put your head back.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Comme ça, voilà. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Je suis accompagné de Vincent. Bonsoir Vincent.
Salut Julien, salut.
Comment ça va ?
Ça va très bien, je suis content de vous retrouver. Après un petit peu d'absence, mais involontaire de ma part. Mais voilà, là, je suis bien présent.
Et j'ai aussi avec nous Cory. Bonsoir Cory.
Bonsoir tout le monde.
Et puis qui se cache toujours dans les angles morts des caméras, on a Arnaud. Bonsoir Arnaud.
Salut.
Alors on passe aussi un bonsoir à l'autre équipe qui doit être sur les dents là en ce moment et essayer de croquer tout ce qui passe entre le festival de Cannes et les sorties officielles. Donc on dit bonsoir à Céline, à Michel, Non, il n'y a plus Michel, je crois. Il y a Claude, il y a Gob. Et puis il y a Marine aussi avec eux maintenant.
Voilà, très bien.
Eh bien, bonsoir à elles et eux. au menu de ce soir de la toile, du petit écran, on n'a quand même pas fait d'émission pendant un mois, donc on a quelques trucs à
faire. On n'a pas d'excuse. Si on n'a rien, ce ne serait pas l'excuse. Non, voilà. On a des films. Pour notre part, Arnaud et moi, on aura trois films au programme. Un plus ancien qui est un animé. Sorti, mais peut-être pour Cory aussi, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Suzume.
Non. Il n'est pas si ancien Suzume, hein. Oui, c'est le pas... dernier Makoto Shinkai.
Tout à fait. Et
Je veux manger ton pancréas. Non, Your Name.
Your Name, je crois, c'est ça. Donc voilà, on
et
aurait
les
dû.
Enfants du temps.
On aurait dû en parler initialement à l'autre émission parce qu'on l'avait déjà vu, je crois. Mais donc on va pouvoir.
Mais
en
on
parler.
Avait que ça.
On n'avait que ça, voilà. Si on avait fait, on n'aurait parlé que de Suzume, ce qui aurait été un petit peu court. Là, on a deux films en plus qui ne sont pas des films de, comme tu dis, de saison. On aurait pu les proposer plutôt en octobre. Mais c'est une thématique diabolique puisque ce sera Evil Dead Rise dans un premier temps. Puis on aura aussi L'Exorciste du Vatican. Et on vous expliquera comment l'un est une réussite à peu près assumée, alors que l'autre, c'est une énorme bouse.
Alors, L'Exorciste du Vatican.
Devine laquelle, voilà.
Déjà, quand on voit les,
les affiches et tout.
Les affiches, j'ai juste l'impression d'avoir pris 30 ans de Back to the Future, quoi. Enfin, vraiment, ouais. Là, une typo,
c'est naze.
Une promo, un Russell Crowe bouffi.
Oui.
Plus bouffi que Johnny Depp, d'ailleurs, je crois.
Ça fait mal, hein. Mais l'intérêt des deux films, quelque part, j'y pensais en venant en voiture, c'est qu'on pourra, si on a un peu de temps, finalement faire l'historique un petit peu des films de Diable. Parce que pour Evil Dead, aussi de montrer l'origine de la série, enfin du label Evil Dead, on va dire. qui a à peu près maintenant plus de 40 ans, ça démarre en 81, 82, avec Sam Raimi. Et puis pour L'Exorciste du Vatican, simplement L'Exorciste, le film de Friedkin des années 70, de 1973 en l'occurrence, qui donne toujours l'exemple malgré son grand âge.
Ok, toi Cory, tu as
Moi j'ai Les Gardiens de la Galaxie volume 3.
J'ai aussi.
Voilà.
Je ne suis pas retournée au cinéma depuis, après c'est pas mal petit écran, surtout Netflix.
Ouais.
Avec la saison 2 que j'ai eu du mal à finir de Shadow and Bone, la saga Grisha.
Oh putain, j'ai commencé et j'avoue que autant la saison 1 m'avait plu, on en reparlera, mais la saison 2 est plus dure.
Sans prise de tête, un peu cucu, mais c'est la suite.
La Reine Charlotte.
Ouais, la Reine Charlotte, la des Bridgerton. J'avoue que.
Comment j'ai fait pour deviner
juste dire que c'est
sans prise de tête, un peu cucu.
Sans prise de tête, voilà. C'est ça.
Ça a l'air mignon, Bridgerton. J'ai envie de les mater du coup.
Bah, en vrai. Rien que ne serait-ce que la chose dans son entièreté, c'est vraiment un truc à regarder. Je fais autre chose à côté.
En mangeant, quoi.
C'est sympa, il y a un peu de drama, de gossip pour ceux qui aiment.
Ok.
Voilà.
moi, de mon côté, je me suis avalé Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, The Lost Canvas. Là, je suis en train de mater la saison 2 du reboot en animé 3D par Netflix du Saint Seiya classique. Et puis j'ai avalé un truc que j'ai découvert complètement par hasard. Je pense que c'est sorti sur Crunchyroll, mais je l'ai découvert après. Ça s'appelle 86. C'est une série en une seule saison, deux parties, 26 épisodes, qui est vraiment pas mal du tout. On en parlera un petit peu plus. Voilà.
D'accord.
Et puis sinon, Les Gardiens de la Galaxie. Et puis j'ai commencé à mater le Donjons et Dragons. Et de ce que j'ai vu, en fait, bon, je vais pas aller jusqu'au bout, mais de ce que j'ai vu, je peux déjà à peu près critiquer le film, je pense, quoi. Voilà,
okay.
J'ai fait la moitié du film et il y a quelque chose. Voilà, je vais pas aller sur le scénar complet, mais ne serait-ce que sur certaines approches qui peuvent être intéressantes. Commençons par la plus bousesque des bousesques.
Oh, c'est vrai ?
Ouais, allez, on commence.
Je pensais commencer par Suzume, moi. Bon, d'accord. L'Exorciste.
Non, Suzume, on le prendra pour passer vers les
oui, oui,
les
oui, on part du plus bas, on va de l'enfer jusqu'au paradis, c'est un peu
c'est ça.
C'est pas le paradis, Suzume, c'est pas non plus vrai, archi parfait, mais bon, voilà, c'est quand même bien mieux, évidemment, que l'Exorciste du Vatican. On peut pas, ou guère, faire pire.
C'est le nanar de l'année.
Oui, vraiment.
Parce
même
que
peut-être
a priori, il y a un nanar qui va sortir cet été. Hein, c'est avec Jason Statham, le retour des mégalodons qui mangent des dinosaures et tout.
Oui, il y a du dossier là.
Oui, là, il y a des nanars là.
D'accord, bon, on verra. Parce que là, franchement, ils ont mis la barre assez haut finalement avec un film de très très mauvaise facture. Il n'y a aucun autre mot, je crois, Arnaud.
Ah ouais, carrément.
C'est vraiment mauvais. apparemment, c'est d'après une histoire vraie, mais déjà là, je pouffe. Parce que on la connaît, hein, le coup d'après une histoire vraie, c'est l'arnaque la plus énorme de tout le cinéma de fantastique et d'horreur depuis au moins Massacre à la tronçonneuse, puisque c'était ce qu'ils avaient marqué au début du film.
Pour être plus précis quand même, donc le personnage incarné par Russell Crowe.
Le père amorphe.
Alors le nom.
Amorphe.
À chaque fois, je l'entendais en salle. Je sais pas, soit c'était mal prononcé, soit je commence à avoir besoin de prothèses auditives. Mais
les deux. Hein ? Les deux ?
Peut-être, hein ? Oui. Exactement. Parce que de temps en temps, j'avais l'impression d'entendre « abort ».
Oh, abort, le père aborte quoi. Voilà. Le père bon, avortement, je sais pas, ok, c'est... très bien.
Mais ça, à la rigueur, ça réjouit un petit peu ma séance.
Comment s'occuper quand un mauvais film passe devant votre écran?
Bon, bref, donc le personnage en question, alors exorciste de son état, est censé
au Vatican, non?
Oui, au Vatican, est censé être un vrai personnage. Ouais, ouais. Avec le vrai nom, j'en sais rien. Et donc, il a aussi écrit des bouquins.
Des bons bouquins.
Et c'est même dit dans le film, des bons bouquins. Et c'était bon les bouquins. Et c'est redit à la fin du générique, enfin au générique à la fin du film, que c'est d'après un des bouquins qu'il a écrit. Alors, d'après une histoire vraie, je sais pas sûr, mais d'après peut-être un roman qu'il a fait, pourquoi pas. Mais sinon, oui, effectivement, c'est. C'est assez foisonnant, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que le parti pris de base est quand même un peu difficile. C'est-à-dire que pourquoi un film d'exorcisme devrait forcément se passer dans le milieu direct de l'Église ? Je sais pas. Enfin, là, il y a des trucs. Disons qu'on est vraiment immergé. Je veux dire, le décor, c'est ça. C'est pas le prêtre qui débarque dans la famille qui a des
soucis.
Dans
l'intimité d'une maison bourgeoise. Enfin,
c'est un peu le cas quand même au tout début. Là, l'introduction.
C'est
du
chez
film.
Les paysans au début. ce qui est plutôt pas mal.
Mais donc la suite, c'est on est dans une église, une chapelle. Après, on est beaucoup au Vatican. Qui est pas non plus super crédible, quoi. Je veux dire, c'est non, vraiment non. Du truc en carton-pâte. Ça aurait pu être marrant.
C'est aussi beau que Ange et Démon, l'adaptation de Dan Brown.
C'est vrai qu'on a l'impression que dès que les choses se tournent autour du Vatican, c'est quand même mauvais, souvent. À part le premier, à part Da Vinci Code. Mais
Da Vinci Code, ils vont pas au Vatican.
Oui, en plus, tu as raison. Oui, en fait, c'est Ange et Démon qui se passe plutôt au Vatican.
Ouais,
avec Evan McGregor, c'est ça qui jouait le maître des clés. Enfin, pas le maître des clés, mais enfin, le cabernacle. Je sais pas comment ils appellent un nom. Bref, je diverge. Je vous digresse plutôt. Non, là, vraiment, le film démarre mal, on le sent. En fait, on sent que c'est pas terrible. Non seulement parce que Russell Crowe, je pense que là, il est vraiment un peu au bout de sa carrière et il essaie de faire ce qu'il peut pour... ou du moins, même pas ce qu'il peut, il prend ce qu'on lui donne.
Il finit plus mal que Johnny Depp, en tout cas, le même physique.
Et oui, alors il est... Ce qui est marrant, c'est que tout le début, on a vu le film en VF, mais ce qui est marrant, c'est qu'au début, le film est sous-titré en grande partie parce que non seulement Russell Crowe, mais aussi quelques autres personnages parlent en italien. Mais c'est sous-titré, mais c'est les Français, les doubleurs français qui ont parlé en italien. Donc c'est assez drôle. Je pense qu'en VO, ils doivent parler effectivement en italien.
Vous avez entendu le soupir de Cory. Mmh. Ouais. Je ne l'ai pas exprimé, le mien, mais...
Je pense qu'en fait, Russell Crowe, il est tellement démuni qu'il doit se dire, je demande un petit caprice d'acteur. Pendant la première vingtaine de minutes, je vais exclusivement parler en italien pour dire je peux le faire. Donc, il ne parle pas un mot de français ou d'anglais. C'est-à-dire, pendant la version française du film, il fait de l'italien, mais alors vraiment... t'en penses quoi? Je ne sais pas, ce n'est pas extraordinaire quand même. C'est
cappuccino.
Cappuccino, voilà, très cappuccini, etc. Bon, enfin, c'est assez risible. Et puis, on voit, puis bon vivant,
j'ai envie de pleurer quand on
surjoue. Voilà. Et donc, il joue, évidemment, l'idée, c'est que ce soit... C'est un exorciste donc, officiel. Il est labellisé, entre guillemets. Enfin, du moins, il a été consacré par le pape pour mener les enquêtes, investiguer. Et lorsqu'il y a de vraies affaires, 2% seulement de ses consultations, il le dit dès le départ, il intervient, il a l'expérience pour ça. Mais bien évidemment, il est en révolte. C'est un révolté, en fait.
C'est un de ses traits de caractère, c'est d'être en rébellion contre le système, ou du moins, paf, rébellion. Simplement,
en opposition,
ça l'amuse de les contrarier. Et de pas jouer le jeu total
de la lutte de pouvoir en fait au sein du Vatican en fait. Donc c'est la partie un peu politique du film. Il y en a un tout petit peu quand même pour situer le personnage. C'est donc un peu une grande gueule en fait qui boit du whisky.
J'ai l'impression que The Warrior Nun c'est mieux.
Je sais pas. En fait, là après le problème, comme dit Arnaud,
le rite par exemple.
Wow, le rite c'était mauvais aussi. Hein.
C'était mauvais, mais finalement j'ai l'impression que c'était mieux.
Avec là aussi la déchéance d'Anthony Hopkins dans un rôle un peu de prêtre exorciste aussi. C'est un genre à part entière en fait.
Depuis le film d'exorcisme.
Depuis les années 70, on va dire, depuis l'exorciste, le seul, l'unique. C'est,
voilà. Parce que tout après est raté quand même.
Oui, quasiment. Il y a eu même un Exorciste, enfin pour vous situer.
Un reboot de l'Exorciste.
Je ne parle même pas de ça, on pourrait en parler sur une émission entière. Mais en tout cas, même à l'époque, il y a un film italien qui s'appelait L'Exorciste, je ne sais plus trop quoi, qui est sorti quasiment la même année que le version de Friedkin, qui l'a photocopié un peu, et on voyait déjà le niveau de divergence. Mais là, on est 30, 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, et on fait donc encore des films sur le
concept.
J'ai
juste l'impression de voir L'Exorciste 2, en fait, quand je vois la promo.
Hérétique. Qui ouais. était vraiment pas terrible aussi, John Borman. Ouais. Non, mais là, vraiment, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, ils n'ont rien appris du modèle du premier. C'est-à-dire, le premier, il amenait beaucoup de fraîcheur et beaucoup de nouveautés à l'époque. C'est-à-dire que...
Non, c'est le fraîcheur qui me fait marrer.
Moi aussi, c'est le fraîcheur qui
me fait marrer. Le vomi d'épinards, c'est ça. Mais vous avez que ça en tête, hein, mes pauvres amis, franchement.
Pas que, on a les têtes à 360.
Mais oui, mais... Allez, oui, mais...
Le grimpage au plafond...
En tout cas, oui,
les
mais
crucifix.
Vie, mais ça se passait dans une maison normale.
Chez l'habitant.
Chez l'habitant. Il n'y avait rien de fantastique.
J'irai dormir chez vous avec Antoine de Maximi.
Et d'abord, en plus, c'était presque médical la première partie du film. On était dans une observation presque clinique du cas, et ça a évolué vers la fin avec une véritable exorcisme rituel, mais sinon au début, jusqu'à pratiquement les trois quarts du film, on pense que c'est une psychopathologie en fait. Et il y a vraiment le côté de la maladie, la peur de la maladie, mais ça, j'en pourrais en parler des heures. Mais bref, là, on a l'opposé.
Projette un peu là.
Oui, mais j'adore ce film, je suis un gros fan, donc je le défends. Mais là,
on
des années plus tard.
Un jour,
pas le
version commentée. Hein. La version commentée.
Pas le remontage. Hein,
non, parce que voilà, il a détruit son film, Friedkin, plus récemment. Enfin, c'est en 2002 ou 2004, je sais plus, il a remonté, rebricolé, remasterisé, et c'était vraiment un gros erreur. Mais pour celui-ci là, qui nous intéresse en ce moment, bah, vraiment là, il y a toutes les erreurs habituelles. C'est-à-dire, comme ça se passe avec un univers gothique et un peu fantastique, donc on est dans une église en refaction, enfin, qui est en train d'être réhabilitée. Mm-hmm. Donc un lieu gothique, un lieu lugubre déjà, donc on n'a pas besoin de ça en fait. Et c'est déjà l'incarnation même d'une espèce d'église déchue où l'enfer est juste en dessous en fait. Donc déjà...
C'est Sunnydale.
Oui.
C'est la porte de l'enfer.
Voilà. Mais avec des personnages extrêmement caricaturaux et un petit gamin qui est donc possédé, qui en fait des tonnes.
C'est Damien.
Oui, voilà, mais il a fait
comme... Ah oui, ils sont allés chercher vraiment
Ils ont pris un môme qui en fait comme une cacahuète, parce que c'est ça l'idée, c'est que malgré sa maigreur, en fait, il est très puissant parce qu'il est habité par un démon balèze. Mais donc le gamin, il a que deux astuces de gimmick. Enfin, gros. Enfin, c'est ça, il fait qu'un petit greux, et puis voilà. Et puis il est nul. Il est même pas ficelé sur son lit, quoi. C'est stupide, il peut se barrer quand il veut. Il peut partir faire la tournée des ducs. Tu vois, pourquoi il reste au lit tranquillement quand on vient l'exorciser?
Je trouve que c'était beaucoup. C'est absurde. En fait, t'es en colère là, ouais. Vincent.
Bah, ça m'énerve, moi.
Tu n'as pas aimé le film.
C'est un sujet pour lequel j'ai assez grand respect. Et quand c'est détruit, que c'est massacré par des auteurs inqualifiables, avec la complicité d'un acteur australien à la déchéance, voilà, on arrive à avoir une grande bouse dope comme ça, une bonne bouse comme on n'a pas vu depuis longtemps. Moi, ça m'exalte aussi. Ça, j'aime bien les films qui sont.
J'ai rarement vu autant en colère. Hein, j'ai l'impression que t'es autant en colère que moi lorsque vous m'avez forcé à regarder.
Je sais de quoi tu parles.
Empire of Light.
Donc, voilà, Arnaud.
Qu'est-ce que je peux rajouter par-dessus?
Ça va être dur. Hein.
Le problème, c'est
la chantilly sur le caramel.
Le grand final. Le
truc, c'est que je risque de dévoiler la fin.
Oui,
est-ce que je vais oser?
Allez, vas-y. Bon. A priori, ne le conseille pas à nos auditeurs, ce film.
Non. Ils ont osé. Ils ont été jusqu'à refaire, on va dire, la fin de Terminator 2.
La séquence de l'huile de
Enfin, ça se passe pas dans une usine, bien
non.
sûr.
Non, mais il y a quelqu'un qui tombe dans du métal en fusion.
Oui. Un truc dans le genre. L'image, c'est ça.
Et tu as le visage un peu fondu qui sort dans la.
Comme le juge de mort dans La Trempette.
Pourquoi pas aussi. Voilà. Mais voilà, des trucs qui sont quand même.
Je vois ta tête dubitative.
Je comprends rien.
T'as pas les références des années 80. T'as pas vu Terminator 2.
Si, Terminator 2, j'ai.
Bah à la fin, le T
800.
1000
et après le T 800.
Ouais, après le T 800, mais là.
D'abord le T 1000 qui tombe dans la fusion, et donc du coup, et en fait, dans Roger Rabbit, à la fin, le juge de mort, ils le font tomber dans une espèce de mélange de terre et d'enzyme, acétone. On appelle ça la trompette. Non, pas la trompette. Qui dit
c'est un
dilemme en fait.
Pour les dessins animés, voilà, pour les peintures.
Et donc du coup, le juge de mort qui pendant tout le film se fait passer pour un humain, est en réalité un toon et il tombe dans la trompette et il se dit.
Je pensais pas qu'on allait parler de Roger Rabbit pour évoquer l'exorcisme du Vatican.
Désolé, c'est la seule image qui m'est venue d'un visage.
Ils ont osé
faire ça.
Ils ont osé faire ça. Déjà dans l'Alien 3, je trouvais que c'était Libit.
Oui, mais elle plonge dans des flammes.
Plonge dans des flammes. C'est assez mal fait. Elle disparaît en fondu.
Non, c'est pas mal fait. C'est David Fincher.
C'est onirique. Non, mais attends, j'apprécie beaucoup le film. Hein.
C'est presque mon préféré, moi, Alien 3.
Oui, donc on dérive encore.
De toute façon, a priori, c'est un mauvais film, donc on ne peut pas parler d'un mauvais film.
Oui, mais si, non. Pas, moi j'aime bien dire des bêtises sur des films qui sont pas mauvais.
Mais enfin, bref, voilà, c'était...
Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment mauvais.
C'était mauvais, l'ambiance, elle n'est pas bonne, l'éclairage, il est constant pendant tout le film, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où il se trouve, on a toujours un peu la même ambiance, et les mecs, ils ne savent pas changer un peu les trucs.
Vous avez vu un téléfilm ou quoi?
Non, non, c'est en scope quand même. Mais oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Il n'y a pas d'autre mot.
Bon, on a quand même fait 20 minutes sur un film pas terrible. Ouais, donc c'est mieux quand même.
C'est toujours le piège. Oui. Voilà. On peut enchaîner avec
passons autre chose.
Ouais, bah, oui. Vous avez quoi d'autre?
Voulez-vous parler, je sais pas, des Gardiens de la Galaxie, les amis?
Allez.
Bah, allez.
2h30 alors.
Tu te lances ou je me lance?
Vas-y, lance-toi. Fais-nous le pitch.
Bah, du coup, on se retrouve, on retrouve l'équipe juste après un peu l'épisode spécial de Noël.
Exactement. On est
avec
juste là derrière.
Toutes les révélations, un peu, bah, du coup, que Star-Lord Quill est le frère de Mantis.
Mm-hmm. Tout à fait.
Et,
il est quand même méga déprimé.
Il est déprimé parce que, bah, il a perdu sa Gamora et ça va pas top. Et d'un seul coup.
Il n'y a plus Kevin Bacon.
Oui, bah Kevin Bacon quand même. C'était sympa quand même. Mais bref, on divague. Mmh. Et on se retrouve avec une nouvelle menace qui est Adam Warlock, qui vient essayer d'enlever Rocket.
Ouais.
Et il défonce clairement.
Qui n'est pas un raton laveur.
Qui n'est pas un raton laveur. On dit juste Rocket pour l'instant. Et bah, les gardiens se font démonter, clairement. Rocket est fortement blessé et ils n'arrivent pas à le soigner parce qu'il a tout un processus de technologie ultra secrète qui ne peuvent pas pirater ni quoi.
Qui l'empêche du coup
d'utiliser d'un Medipack. Donc il est entre la vie et la mort, le Rocket.
Mais en fait, c'est le Rocket de Schrödinger.
Oui.
Pardon.
Et donc, les gardiens vont essayer de faire tout leur possible pour récupérer les données permettant de soigner Rocket. Et ils vont se retrouver face à plusieurs menaces. Ils vont retrouver la Gamora de 2014, qui est maintenant une ravageur.
Tout à fait.
Donc il y a tout un conflit dans l'équipe où bah, certains ils sont en mode « Oui, mais tu es notre Gamora, on t'aime. » Et elle est en mode « Mais je ne vous connais pas. »
Un est toujours comme ça.
Oui, ouais, toujours comme ça. Et donc on est avec toute cette histoire, avec beaucoup de flashbacks de la vie de Rocket, qui est extrêmement triste, bouleversante. Non, mais j'en peux plus, moi. Qui nous montre un peu tous les... Tout ce qui est la maltraitance animale, clairement. Et
voire humaine, le génisme, humaine. En fait, on a quand même
un
grand méchant.
Je comprends pourquoi Yann, il dit, c'est le film parfait pour L214.
Ah non.
Ah mais clairement.
T'as un grand méchant qui est une sorte de docteur Mengele de l'espace.
Ouais. Aïe, 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 d'accord.
Qui s'amuse à essayer de créer l'espèce parfaite.
Voilà,
et Rocket était son meilleur exemple d'espèce parfaite parce qu'il a développé la capacité d'initiative et de réflexion.
Et surtout qu'il est beaucoup plus intelligent que le méchant qui est le... High Evolutionary, le maître de l'évolution.
L'évolution, ouais, le maître de l'évolution.
Et donc, il veut récupérer Rocket, et notamment son cerveau, parce que il veut créer l'être suprême, parce que il est beaucoup jaloux de lui que l'invention ait dépassé le maître.
Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, il lui avait solutionné différents problèmes sur d'autres trucs. Quoi.
Oui, c'est ça, que lui n'avait pas réussi à résoudre.
Et il y a une espèce de Scooby Gang d'animaux modifiés.
Oui.
Et c'est là où, en fait, on va comprendre que Rocket est complètement... Pourquoi Rocket est déprimé et taciturne?
Parce que sans trop spoiler, les amis, j'ai l'intention d'aller le voir quand même.
Ah, ouais, du coup, il y a
ça. Mais déjà, je vois le potentiel dans le scénario qui est assez audacieux quand même.
Oui, on a un scénario qui est différent d'un Marvel classique. On n'a pas un grand méchant qui veut ravager l'univers. On a un méchant qui a envie de créer l'espèce parfaite. Il ne cherche pas à dominer le monde, en quelque sorte, mais pas de manière habituelle. Comme Thanos pouvait être hyper gris et on faisait un méchant hyper intéressant, on se dit, Thanos, au final... Sa doctrine, c'est pas si... Enfin, tu vois, c'est
50-50, l'appel à un ami.
C'est le 50-50.
L'appel à un ami.
C'est le Covid, quoi. Tu vois, le Covid, il faisait pas de détails, quoi. Enfin, oui. Que tu sois riche, pauvre, blanc, femme, noir, asiatique, bien portant, mal portant, il t'attrapait. Oui. Et voilà, enfin, du coup, Thanos attaque. Et là, en fait, on a un méchant qui a une doctrine. En fait, il cherche pas... éradiquer le reste de l'univers. Il crée des espèces qu'il élimine les unes derrière les autres et il veut créer un monde avec l'espèce parfaite pour le regarder évoluer.
C'est ça. Et puis, en soi, c'est un bon méchant pour une fois parce qu'il apporte tout un background
tout à fait.
Plein de personnages qui fait ressortir les défauts et les qualités de certains. Et puis, moi, j'ai passé un bon moment. Et comme on parlait en off, c'est un film qui est assez poignant parce qu'on passe d'un coup rire, on est en colère, on pleure, une bouteille d'eau, on rigole.
T'auras pas besoin d'aller aux toilettes, Arnaud.
Tu parles d'ascenseur émotionnel,
ouais. Et c'est pas genre mauvais, d'un point de vue mauvais, c'est vraiment très qualitatif, je trouve.
Ouais, ouais, il est vraiment bien. On rigole, il y a vraiment des barres de rire à prendre. Et tout de suite après, on ouvre une barre de pleurs, puis une barre de colère, puis on repart. Enfin, c'est vrai. Et puis, on te laisse pas
ça,
le temps.
Ça, c'est dur à faire, hein, parce que moi, je suis pas très mode alternance. Moi, c'est-à-dire qu'il faut mettre une progression pour. Difficile de coïncider une séquence drôle, drôlatique et vraiment marrante avec un truc drama dur. C'est un challenge à faire. Hein.
Et il y a des trucs, en plus, il y a même du pleur attendrissant, pas forcément drama dur, mais des fois, ça te tire une larme.
C'est la gorge serrée, enfin, les trucs un peu comme ça.
Bing, derrière on te remet de la colère ou on t'envoie une barre de rire derrière une barre de pleurs. C'est vraiment bien rythmé pour le coup.
Surtout que là, du coup, on se retrouve quand même avec un bon film et de ce que nous avait fait le MCU, le Marvel Univers. Là.
Dernièrement, on était au fond, on
était en train de récurer les toilettes. Je suis désolé.
Et puis alors après, je sais pas comment ils vont se sortir.
C'est pas de la colère, ça.
Je sais pas comment ils vont se sortir de la polémique Kang, puisque leur grand méchant
encore mitigé. Tu vois, de ce que j'ai vu un peu, ils le gardent pour la série Loki.
Ouais.
Mais pour l'avenir, ils savent pas encore. Mais franchement, là, on voit qu'il y a un nouvel air frais, surtout avec Sean Gunn, mais du coup, qui s'en va. Et comme je disais, on passait de beaucoup de choses, ne serait-ce que les scénarios précédents, des films précédents, l'esthétique, les effets spéciaux. Je trouve que quand on passe de Ant-Man 3 à ça, il y a quand même un grand...
Après Ant-Man 3, il y a des trucs rigolos dans l'esthétique.
Mais tu voyais quand même, on n'était que sur du fond vert, quoi. Il n'y avait rien d'autre. Et là, franchement, il y a de beaux décors, on a de bons acteurs, on a une équipe... d'acteurs qui
fonctionnent. Il y a un bon Scooby Gang, encore une fois. Enfin, voilà.
Mais voilà. Après, en soi, il n'y a pas trop de défauts, mis à part, je pense, comme je disais, pour le personnage de Adam Warlock, qui a quand même, dans les comics, il a une grande importance. Je trouve qu'il arrive un peu tard. Là, je vois pas le sens qu'il pourrait avoir dans la suite.
Et après, moi, j'aimerais bien qu'on arrive aussi à réintégrer les Éternels, parce que quand même, il faut quand même le dire, hein, Nowhere, c'est quand même la tête d'un Célestiel.
Ouais.
Et que, du coup, on a eu un film fait par notre
Chloé Zhao,
la sino-américaine, qui d'habitude est plutôt dans le film contemplatif, qui fait des films hyper intéressants, qui a un peu raté quand même son passage au MCU, alors que Kenneth Branagh, quand il avait réalisé Thor, avait plutôt réussi ce passage. Je sais pas comment on va arriver sur les Éternels 2.
Enfin, parce que quand même depuis,
parce qu'il nous manque Blade qui devrait arriver. Enfin...
Qui est un peu suspendu. On n'a pas évoqué la grève des scénaristes, mais. Ça remet en question certaines sorties qui étaient prévues.
Tout à fait. Et même dans la série petit écran. La saison 2 de House of the Dragon s'en sort bien, mais la saison 3 va être certainement postpone. Voilà. Mais sinon, les Gardiens de la Galaxie 3, à voir. Évidemment, essayez de voir le 1, le 2, l'épisode de Noël entre les deux et le 3.
On l'a vu, donc. On est à jour.
Ouais, c'est quand même un truc qui est plutôt bloc. Hein. C'est vraiment... c'est pas des trucs indépendants.
Surtout que Marvel, là, il s'était habitué à faire pas mal de trilogies pour chaque personnage. Et là, pour l'équipe, on avait quand même tout du long des
bons films.
Bonne progression. Et là, on est quand même sur. C'est pas la fin de l'équipe parce qu'elle est promue.
Stop, sinon on va spoil.
Mais sinon, c'était une bonne.
Une bonne mouture. C'est un another revenge movie with Liam Neeson ou Keanu Reeves. D'ailleurs, j'ai regardé les John Wick chapitres 1, 2, 3.
Oui.
ça s'enchaîne bien.
On ne tira pas au 4, du coup.
Je le cherche. Si j'aimerais bien regarder le 4. J'ai trouvé que le 2 était le moins bon. Non. Si le 2 est le moins bon de tous. Par contre, le 3, j'ai vraiment commencé à apprécier. Après, ça reste de la castagne. Hein. C'est vraiment le film pour se vider.
Et pas très varié, à part peut-être le 3e.
Il y a des trucs jolis dans le 3e. Il y a des belles chorégraphies. Il faut aimer la chorégraphie. En fait, on est sur du film de kung-fu chinois modernisé par des Américains.
Moi, je trouvais que la mayonnaise, elle prenait pas trop, mais bon, c'est.
Moi, ça
c'est
marche.
Mon avis.
En vrai, ça marche. Ça m'a pas déplu. C'est détente, John Wick. Voilà. J'ai clos le chapitre John Wick, que je n'avais pas forcément ouvert. On retourne vers vous, les gars.
Oui, on peut parler de Suzume, du coup, quand même.
Vous aviez pas un troisième film
Si, mais Evil Dead Rise, mais on va se
Vous passez d'abord.
Oui, je sais pas. Suzume, non Parce que c'est déjà un peu plus lointain déjà, et j'ai peur de perdre de Suzume. Okay. On ne parlera pas dans l'émission, bien sûr.
Alors, Suzume, normalement, le petit train japonais est plus loin. C'est Suzume no, je ne sais pas quoi. Mais...
Oui,
mais
c'est le prénom de la jeune femme, personnage principal de l'histoire. C'est
Suzume de quelque part, en fait.
Ouais. Donc, d'après, donc, tu dis, c'est le même auteur que Your Name, qui est un film notable, mémorable. Même,
et Les Enfants du Temps aussi.
Dans l'univers des romans dessinés, parce que c'est plus du roman presque. Enfin, on n'est pas vraiment dans le manga classique, c'est plutôt assez contemplatif, assez détaillé, assez dense, enfin, souvent. Là, on est
Alors, on est dans le manga classique, on n'est pas dans le shonen.
Ouais, voilà. L'histoire est assez basique au début, mais elle s'étoffe un peu au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est une jeune étudiante.
Alors, oui, elle est jeune étudiante et orpheline.
Oui, exactement. Elle est sa maman. Ouais, elle est donc chez sa tante, c'est ça.
Elle est chez sa tante, elle est hébergée chez la sœur de sa mère.
Voilà. Et en fait, elle est capable en fait de voir en fait des portes. C'est ça l'idée que elle peut voir. Enfin, quelques élus peuvent voir en fait des portes dimensionnelles qui amènent vers un autre univers parallèle en fait au nôtre. Et un jeune beau gosse, on va dire, est un maître des portes, des clés surtout qui peuvent permettre de fermer surtout les portes, car si elles restent ouvertes, c'est la porte ouverte en fait à tout et n'importe quoi en fait.
Et surtout au séisme.
Et surtout au séisme, voilà, parce que là l'histoire du film d'intérêt, c'est là les Japonais sont très forts parce qu'ils savent comment dire faire
tirer parti des
fantasmagories.
Là où les enfants du temps nous parlaient beaucoup des typhons et de la pluie.
Et ben là
où Your Name nous parlait un petit peu des éruptions volcaniques et ce genre de choses, là en fait il vient nous parler.
L'idée c'est quelque part on parlait de Dune tout à l'heure un peu en aparté avant le film, avant la mission parce qu'on a vu la bande. Enfin vous avez vu la bande du deuxième, mais là quelque part dans le film il y a un petit peu ça dans Suzume. Il y a un ver géant ou des vers géants qui sortent de terre au moment des tremblements de terre, et que seules donc certaines personnes peuvent voir en fait au-dessus des villes. C'est énorme, c'est gigantesque, et c'est en fait ces vers qui provoquent les séismes. Donc il y a une animalisation, on va dire un animisme en fait, hein, qui est très important dans la culture japonaise. Et donc la nature est toujours extrêmement incarnée, y compris dans les phénomènes telluriques qui sont purement, on le connaît, géochimique ou du moins géologique, géodésique, peut-être, non pas géochimique, enfin bref, je dis des mots débiles.
Tellurique.
Bref, tellurique, voilà. Là, on donne une incarnation d'un monstre, d'un grand monstre. Et donc, notre jeune Suzume, elle aide ce personnage, ce garçon dont elle tombe amoureuse assez vite, dès le départ pratiquement du film. C'est quasiment Love at First Sight.
Oui,
et là, on est dans un angle du film qui est un peu moins intéressant, qui est la romance un peu gnangnan quand même.
Oui, ben ça, c'est un peu récurrent aussi chez Shinkai, on va pas dire romance gnangnan, on va dire bleuette.
Bleuette ou bluette, oui, tout à fait, c'est ça.
C'était une bluette un peu gnangnan.
C'était une bluette.
En tout cas, c'est pas gnangnan. Il faut reprendre l'univers japonais, il faut arrêter de regarder avec notre prisme européen.
Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'était moins bien décrit que, par exemple, dans Your Name.
Your Name, c'est le thème principal, la bluette.
Oui, bon. Alors après là, ça donne quand même des situations intéressantes au début, parce que cet amour qu'elle n'arrive pas pour l'instant à avoir, il se transforme en fait en tabouret, en petite chaise, et ça c'est très très bien fait, parce qu'il y a une malédiction au tout début. Donc, voilà. Et donc
il lui manque un pied.
Et il lui manque un pied.
Ce qu'il y a dans la bande.
Elle est bancale.
Parce que pour l'instant, j'ai juste vu le tabouret.
Ouais.
Qui
et ça c'est extraordinaire. Et ça c'est les meilleures parties du film. C'est toute la première partie qui dure une bonne heure quand même, un peu plus même peut-être.
Ouais.
Où là, on a ce personnage qui ne parle. Enfin, il parle quand même, elle l'entend. Mais donc la pauvre, elle est platonique, mais bon, elle est amoureuse d'une chaise qui manque un pied. Et ça c'est très très drôle. En plus, il y a des petites ambiguïtés, des petites projections un peu érotico machin. C'est plutôt bien fait, c'est subtil à la fois, bien évidemment, et c'est la meilleure partie du film. Mais la deuxième et troisième, enfin la dernière partie, là ça s'égare, moi je trouve.
Effectivement, il me vient des trucs en tête.
Fatalement,
c'est pas bien.
Tu te rappelles de certaines choses du film. Mais en tout cas, la dernière partie, qui est donc le combat un peu plus entre les deux univers parallèles, refermer les portes pour éviter que la Terre, quasiment, enfin en tout cas le Japon, s'effondre.
Oui, d'une part. Mais
et
enfin,
puis la connexion aussi à la mère défunte. Tout aussi
oui,
ça
c'est-à-dire que le monde, a priori le monde donc, qui a au-delà de ses portes, est aussi le monde des morts.
Oui.
Et okay. elle peut aller et venir finalement, enfin pas à sa guise, mais quand même, entre les deux portes. Et effectivement, il y a une grosse, grosse quand même question du deuil.
Oui.
à faire.
Thématique récurrente aussi.
Et on est d'ailleurs, mais c'est assez typique de la culture japonaise, oui. Hein, les portes, les torii qui permettent de rentrer dans les temples.
On est complètement là-dessus.
Voilà. Et du coup, le titre original, c'est Suzume no Tojimari, qui est traduit en anglais par Suzume's Locking Up, qu'on peut peut-être trouver par Suzume Charon.
Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, okay. Enfin,
voilà. Charon, celui qui nous permet de traverser le Styx.
Mm-hmm. Oui, d'accord. Excuse-moi,
Ah oui, ça a du sens aussi, quelque part. Mais bon. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur qu'on ait vu dans ce genre, un petit peu.
Non, j'avoue que sur la durée, il y a effectivement des moments qui me semblaient
un peu lents,
ouais, surtout pas super bien écrit. Enfin,
est-ce
en tout
que
cas,
le dessin du studio de production de Shinkai est toujours aussi précis? Et est-ce qu'on a vraiment l'impression... Enfin, ce qui est assez impressionnant quand on regarde les films de Shinkai, c'est qu'il y a des plans, on peut retrouver le plan exact qui a été fait dans le Japon.
Je pense, mais ça, je suis pas assez fort là-dessus.
Bah, oui, effectivement, les décors étaient finement...
Ça cite beaucoup l'itinéraire aussi. En fait, on parle beaucoup du chapelet d'île et aussi de prendre tel... il blague même là-dessus, dans le film, il blague beaucoup sur le fait que ça prend du temps pour aller de tel endroit à tel endroit, que ce soit en voiture ou en train, en bateau, en ferry. Et tout ça, c'est bien... Toi qui adore ce genre de truc, les transports, etc. C'est bien décrit, tout ça. Et puis, mal animation, encore une fois, comment animer un objet et lui donner une âme, ça c'est très bien fait dans la première partie. C'est pour ça que je dis que le film n'est pas totalement dénué d'intérêt. Hein. Et le studio là montre sa prouesse avec de l'animation peu disneyenne, c'est-à-dire vraiment un objet inanimé qu'on anime, ça ils savent le faire, c'est chouette.
Je voulais y aller la semaine dernière, mais il n'y avait qu'une seule séance un vendredi après-midi à 16h, c'était pas possible, quoi. C'est dommage. Je vais essayer de revoir ça.
Voilà.
Donc c'était Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai. On embraye ?
Comme tu veux.
Moi je peux vous parler de Donjons et Dragons rapidement et après on fera une pause musicale.
Ouais.
Ou on finit les films et on fait la pause musicale après les films.
Allez,
toi t'as un autre film aussi ?
Non, moi j'en ai pas d'autres.
Du coup, Donjons et Dragons, moi je vais rejoindre un peu Cory qui vous en a parlé il y a un mois. Michelle Rodriguez est assez intéressante dans ce rôle de bulldog enragé. L'habitude, on la voit jamais faire des blagues. Là, elle fait des blagues nulles. Ça lui colle assez bien. On a vraiment l'impression qu'elle a pris plaisir à jouer ce truc-là. D'ailleurs, tous les acteurs, on a l'impression qu'ils ont pris plaisir à le faire. Le décorum, l'univers est vraiment proche des illustrations qu'on peut avoir dans les handbooks de Donjons et Dragons. Moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout un navet par rapport aux précédentes tentatives de ce qui s'était passé. On respecte aussi le lore de Donjons et Dragons. Enfin, voilà, on a les personnages qui nous sont présentés dans les handbooks. On a Roderick le druide. On a vraiment tous ces personnages. Olga la barbare. Enfin, voilà, tout le monde est bien là. En fait, pour un fan de Donjons et Dragons, on est sur un film de niche. Pour un fan de Donjons et Dragons, au moins, on va pas nous pondre des nouveautés.
Tu parles du jeu de plateau, des années 80,
celui
qu'on voit dans E.T. entre autres, qui était très à la mode en fin 70, début 80.
Qu'on voit aussi avec Vecna dans Stranger Things.
Oui, absolument.
Stranger Things a cherché beaucoup du lore de Donjons et Dragons. On y est bien. C'est délicieusement kitsch.
Mm-hmm. Oui. Et puis, je ne sais pas si toi, tu connais un peu déjà l'univers un peu Donjons et Dragons. Ne serait-ce que dans les premiers artbooks ou les livres de jeu, déjà, on a les tenues un peu basiques, kitsch.
Tout à fait.
Et là
ils sont reproduits.
Ne serait-ce aussi, comme je disais, les effets spéciaux et tout. On est dans cet aspect kitsch, mais ça fait pas mal aux yeux comme certains, où la 3D elle peut être moche, les décors, les costumes. Là, c'est un kitsch années 80 complètement
assumé.
Années
80,
revisité quand même.
Enfin, vraiment, on a l'impression, il y a ces tons un peu pastel dans les décors, comme si ça avait été crayonné à l'aquarelle. Les costumes sont fait à la mode années 80, mais moderne. Les effets spéciaux, il y a un peu cette tonalité pastel qu'on peut avoir typiquement sur les handbooks de Donjons et Dragons. Magic de Gathering, là, dernièrement, a sorti une édition spéciale Donjons et Dragons avec des cartes. Et on a vraiment ce côté un peu parchemin qu'on aurait pu faire soi-même, vous savez, en prenant du marc de café, une bouteille de... un sachet de thé usagé pour teinter votre canson, puis après vous venez le découper, vous venez le brûler légèrement avec un briquet, enfin tous ces petits artifices qu'on pouvait avoir dans les années 90-80 pour créer en fait une carte au trésor, et ben en fait c'est là, et ça donne en fait une petite facture, ça donne une patte au film,
ça donne son charme,
et c'est suffisamment bien fait pour que ça fasse pas nanar. Voilà. Donc voilà, j'ai Donjons et Dragons, film un peu nichesque. La bande-annonce ne rend pas du tout grâce au film, ouais, en réalité. La bande-annonce en fait un blockbuster, et en réalité, c'est pas tant un blockbuster que ça. C'est un film qui se laisse voir pour les nostalgiques ou pour ceux qui auraient envie de découvrir un peu cet univers, voilà. Pour aller chercher un peu du lore qu'on va nous proposer encore dans les prochaines saisons de Stranger Things, je pense.
Oui.
Voilà. Okay. Je vous laisse finir avec Evil Dead.
Bah oui, Evil Dead Rise, c'est le grand score en fait du film d'horreur depuis longtemps. Il n'y en a pas eu depuis un certain temps, donc les gens se sont rués dessus. Il y a eu les vacances scolaires qui ont beaucoup fait d'entrées. Il y a plus d'un million et demi, 2 millions d'entrées en France, et le film a fait 150 millions de dollars.
Pour un film d'horreur, c'est rare.
Franchement. Après, ça, c'est un peu la tradition d'Evil Dead. C'est assez marrant. Faut l'avouer que le premier film de Sam Raimi, c'est pour ça que je voulais un peu parler de l'historique rapidement, hein, des Evil Dead. C'est un film de 80 000 dollars à la base.
Oui,
je crois,
c'est un film de tout petit budget.
D'étudiants post, qui s'amusent à faire un film très trash. L'idée était d'être vraiment subversif à l'époque. Et Sam Raimi est un jeune réalisateur. Robert Tappert, c'est un pote de fac avec Bruce Campbell, ils sont tous copains dans la même fac près de Détroit, et ils financent eux-mêmes le film, et ça devient un grand succès à l'époque, pour l'époque en tout cas, avec plus d'un million de dollars engrangés, alors que la mise de départ était rien pratiquement, et ça les a surpris les premiers, au point qu'ils en ont fait deux autres, Evil Dead 2 un peu plus tard, et Evil Dead 3, Army of Darkness, qui est plus un hommage à la pixelation, à l'animation à la main de Ray Harryhozen.
C'est celui où ils sont projetés dans le passé
médiéval,
avec les squelettes animés.
Sam Raimi se fait vraiment plaisir à explorer son univers cinématographique de fan, et c'était donc moins savoureux pour moi personnellement que le premier, et à la rigueur même le deuxième, qui était un peu intermédiaire. Ça avait une trilogie qui se tenait sur l'univers d'Evil
Dead.
Il y a une série Ash vs Evil en deux ou trois saisons, qui était une grande réussite aussi.
On avait beaucoup parlé et j'ai pas été voir ça.
À la manœuvre, il y avait toujours Sam Raimi, Bob Tappert et Bruce Campbell, les trois historiques des années 80, donc ça reste cohérent d'un bout à l'autre, et ça c'est chouette. Puis après, il y a des merdes. Et là, il y a 2013, un Evil Dead remake du premier plutôt.
Oh bah ça, c'est avant la série sur Netflix.
Oui, c'est un peu avant la série sur Netflix, effectivement. C'est intermédiaire. La preuve, on l'a tellement. C'était une daube qu'on l'a oublié, mais il a existé en 2013. Evil Dead qui se passe au fond des bois, dans la cabane, pareil, mais refait de fond en comble, et là, c'est franchement une navet. Et puis celui-là, Evil Dead Rise, qui tente une autre piste. En fait, c'est-à-dire, par le début, bien sûr, qui un peu fait référence à l'univers des vieilles cabanes au fond du bois où c'est glauque.
C'est une sorte de reboot, là, quand même.
Ouais, avec. Ça se passait urbain, du coup, donc ça s'intéresse à un immeuble un peu désaffecté où il y a des.
Une ancienne banque.
Une ancienne banque, effectivement, qui est reconditionnée en appartement, en lofts, en fait. Et puis, les habitants de cette tour sont en instance d'être. On le sait après dans l'histoire, mais d'être déplacé parce que c'est très vétuste.
Ça me rappelle le film français dont vous aviez parlé il y a un mois.
Oui, c'était pas mal d'ailleurs.
La tour,
tout à fait. Et là, bien évidemment, il y a un esprit qui est réveillé, c'est le principe d'Evil Dead, et qui va posséder d'abord la maman. En fait, il y a une famille, en fait, une jeune femme et ses enfants. Elle se retrouve possédée, et donc avec un sourire sarcastique, et puis elle est très agressive, bien évidemment, comme tous les gens possédés. Elle en jette partout, etc. Et donc, c'est moins de 16 ans. Oui, entre autres, énormément. À un moment, ça m'a un peu emmerdé, parce que totalement, vous connaissez mon trouble. Et donc, mais bon, je savais que c'était du faux, c'est pas comme pour nos filters, là. Ou peut-être du faux aussi. Peu importe, c'est pour Cannes. Ça. Et du coup,
Cannes l'année dernière.
C'est moins de 16 et ça a son sens. Avec Arnaud, on aime bien que le moins de 16 soit respecté, en tout cas en termes d'opulence du gore. Il faut avouer que là, il y en a.
Si vous promettez quelque chose,
il faut s'y tenir.
Il faut s'y tenir.
Voilà. Et là, il faut avouer que c'est cradingue de chez cradingue jusqu'au bout, hein, surtout vers la fin. Il y a vraiment de l'hémoglobine, mais de la vraie, hein, celle qui est un peu poisseuse, un peu
lugueuse. Faite avec du jus de grenadine et
ouais,
tout.
J'aurais plutôt dit de la framboise.
Bon. C'est pas la bonne recette. Et puis une histoire. Alors là, c'est là que c'est peut-être un petit peu pas parfait. C'est loin d'être la meilleure histoire qu'on ait vue sur ce genre.
C'est
classique, hein, en fait. Mais on retrouve les éléments habituels, c'est-à-dire, c'est triste de voir son proche qui te parle comme une merde, etc., puis qui veut te tuer surtout, avec un couteau, avec n'importe quoi, puis qui s'automutile devant, enfin voilà, ce genre de choses qui faisaient un peu la force des Evil Dead, qui s'inspiraient là aussi de l'Exorciste 73. Hein. Et donc là, le film est plutôt visuellement chouette, la photo est plutôt pas mal. Et puis le casting mouille le maillot, c'est ce qu'on peut dire. Enfin, vraiment, le casting s'investit, les effets spéciaux, le maquillage est plutôt soigné. Et au final, voilà, on a été plutôt emballé, Arnaud, en sortie de salle.
Plutôt.
C'était et le son. Enfin, bref, on n'avait pas vraiment d'angle qui disait que c'était mauvais, quoi, ou qu'il y avait un truc qui était bancal.
Ça reste un film de genre.
Ça, ouais. Bah, tout à fait, complètement. Moi, au début, j'ai eu un peu peur, justement, oui. Parce qu'on nous foutait une.
Au début, c'est pas terrible. Entre matière et pas terrible.
Une espèce de copie, enfin, de plan, des plans, justement, du premier de Sam Raimi, c'est-à-dire la caméra subjective qui passe au-dessus de l'eau, enfin, d'une tendue un peu glauque, etc. Pour arriver effectivement à une cabane qui, alors pour le coup, a rien à voir avec celle de l'original, mais enfin qui est quand même dans les bois. Mmh. Et là, je me suis dit non, pas encore.
Heureusement, non, quelque part.
Et donc, effectivement, assez rapidement, enfin, on nous invite en fait à revenir dans le passé avant ce moment-là qui nous est présenté dès
un
le
jour
début.
Un jour plus tôt seulement, en fait. 24 heures plus tôt.
C'est 24 heures.
Ouais, ouais, c'est tout, juste la veille.
En fait. C'est vrai que ça prend pas marrant, beaucoup de temps pour être possédé, pour démembrer toute sa famille.
C'est l'instantané.
Et donc, on arrive donc rapidement dans un milieu qui est complètement effectivement inhabituel par rapport au film d'Evil Dead, c'est-à-dire la ville. Ça reste malgré tout un huis clos dans le sens où on ne sort pas beaucoup, voire très peu de l'appartement en question. Mais le fait est qu'ils ont essayé de retrouver la patte, l'atmosphère, sans trop... ouais. Comment dire, photocopier,
ouais, c'est bien pour ça.
L'original. Ah. Et il y a quelques trouvailles, même si ça va pas aussi loin dans ouais. l'inventivité dans
des plans, des cadrages,
des cadrages et des plans de Sam Raimi.
On n'est pas Sam Raimi. Hein.
Mais on a un peu quand même la générosité de du premier. Ouais, du premier film, donc bon,
ils ont repensé le design du Livre des Morts, par exemple, qui est très agressif d'aspect, avec des pointes et tout, on peut se piquer dessus, c'est bien foutu. Les dessins à l'intérieur aussi, les écritures sont bien respectées.
Ils sont pas mal. Ouais.
Et puis aussi, traditionnellement, il faut incanter pour réveiller. Et là, c'était une bande magnétique dans le premier film, avec qu'il trouvait au fond de la cabane, là, en question. Là, c'est des disques vinyles qui sont tournés à l'envers, enfin, ce genre de choses.
Non, pas à l'envers.
Pas à l'envers, désolé, j'imagine, je fantasmais de ça. Mais non, enfin, il y a trois disques en trois parties enregistrés par des prêtres. Défroqués, il n'y a pas d'autre mot, qui ont voulu tenter le diable. Et du coup, là, vraiment, on est bien par rapport à l'exercice du Vatican. En gros, là, on a une vraie ambiance sulfureuse qui est avec les vieux vinyles et tout. Ah, l'ambiance, elle est chouette. Moi, okay. C'est une belle partie.
Voilà, Evil Dead Rise, c'est une sorte de sequel Rise. Reboot, prequel
ouais.
reboot.
Ouais, il y a des liens.
Non,
avec
pas prequel.
Je sais pas, puisque on remonte 24 heures avant la cabane, ça se trouve.
Oui, non, mais c'est pas la cabane de l'original. Ah,
ouais, c'est très anecdotique ça.
Il n'y a pas H dans celui-là.
Du tout, justement.
On verra bien s'ils font une suite, on verra ce qu'ils proposent.
En tout cas, il y a eu du gros succès, donc je pense qu'ils vont continuer fatalement un petit peu d'explorer le label.
Je vous propose d'écouter rapidement un titre qui s'appelle Little Angel de Zazu et Bikaye sur Radio Campus, et puis on revient après pour parler petit écran et série rapidement, puisqu'il nous restera moins de 10 minutes. Cool. Toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM, toujours dans On se fait un film. Il nous reste 10 minutes, même pas, puisque derrière, après, il y aura Chip Meadows qui vient vous pousser des disques. Donc, on va essayer de leur rendre le studio et qu'ils puissent s'installer. Donc, on va se donner jusqu'à 58. Allez, on parle petit écran.
Ok, oui. Comme je disais, moi, j'ai fini du coup la saison 2 de Shadow and Bone, la saga Grisha. La saison 1 a été plutôt bonne, à savoir que c'est adapté du coup d'un roman. Bah, en fait, c'est qu'il y a plusieurs romans et pour la série, en fait, ils ont décidé de fusionner pour mettre plus de personnages.
Ok.
Et de ce que j'ai compris, pour la série, ils ont pris pas mal de liberté pour justement faire cette fusion. Et je dois avouer que du coup, je sais pas si c'est ça qui a fait, mais il y a des moments où j'étais un peu perdu parce qu'on passe d'un groupe à l'autre, ils sont un peu éparpillés sur tout le continent. On passe de ci à ça, il y a cette intrigue. On est un peu perdu.
Et on voit pas comment les intrigues se lient entre elles, en fait.
Ouais, en soi, à la fin, je sais pas si tu l'as fini.
Non, je me suis arrêté à l'épisode 4.
Ça se finit où ils arrivent tous à relier leur quête.
Petit à petit, ouais, tu vois.
Mais la fin, genre, ça se retrouve, c'est en mode ah bah coucou, vous êtes là. Ah oui, on est là. Puis bon, vas-y, le méchant, boum boum. Et puis voilà. Même la fin, on te laisse sur un suspens. Enfin, moi, j'ai moins aimé la saison 2 que
là. J'ai beaucoup plus de mal à accrocher à la saison 2 qu'à la saison 1. La saison 1 m'avait fait un peu binge-watcher, voilà, j'avoue. La saison 2, j'avance un épisode tous les 3-4 jours.
Excusez-moi, mais ça parle de quoi?
Parce qu'on ne vous a pas parlé de la saison 1, peut-être déjà. Alors, saga Grisha, c'est une sorte d'univers un peu... Je pense qu'on est dans une Europe de l'Est. Voilà, en gros, on se positionne à peu près dans l'Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. Il y a des trucs qui ressemblent à l'Angleterre, il y a des trucs qui ressemblent à l'Ukraine.
On est un style victorien, fin victorien.
Post-victorien, début révolution industrielle, un peu steampunk. Il y a des trucs qui avancent à la vapeur, au charbon, il y a des énergies, il y a de la magie aussi. Il y a des gens qui sont capables de maîtriser les éléments. Et il y a une espèce qu'ils appellent le truc le fold. On doit être en Roumanie, on va dire qu'on est en Roumanie et la Roumanie est déchirée en deux par un grand fold noir. Et à l'intérieur de ce fold, se trouvent des espèces d'esprits fantomatiques et personne ne sait lutter contre le fold et arrive une jeune Grisha, donc une invocatrice.
Alina,
qui en fait va se révéler être l'invocatrice qui va pouvoir maîtriser la lumière, alors que d'habitude ils maîtrisent ou le feu, ou la matière, l'eau, l'alchimie, ce genre de trucs, mais très rare quelqu'un qui maîtrise la lumière, et donc du coup, elle va pouvoir lutter contre cette...
C'est de l'anime.
Non, c'est de l'humain. C'est de l'humain.
À vous entendre,
c'est sur
là,
Netflix,
je...
Oui, on pourrait penser que c'est de l'animé, mais non, c'est vraiment du live drama.
D'accord.
Les effets spéciaux sont pas pires. Voilà, on n'est pas
sur du moyen.
Ouais, on n'est pas aussi cheap que la première saison de The Witcher, quoi. Mm-hmm. Mais on n'est pas non plus sur du très très bon comme a pu l'être. C'est pas grave. Mandalorian, par exemple. Tu vois, Mandalorian, la première saison du Mandalorian, les effets spéciaux sont vraiment bien foutus, quoi. Là, on est sur middle gamme. Ouais. Voilà. Mais du coup, je prolonge pas pour l'instant. Okay. J'ai du mal à
prolonger. C'est un peu du coup une déception de passer une bonne première saison et puis passer à une saison 2 où on est un peu. Moi, j'ai eu du mal. Je l'ai regardé en 3-4 fois et j'ai eu du mal à reprendre à chaque fois, mais j'ai réussi à la finir.
Bridgerton, la reine Charlotte.
On enchaîne du coup.
Allez, on enchaîne.
À savoir que du coup, on est sur vraiment une série historique où on voit le passé de la reine Charlotte.
Donc on est sur un préquel.
Un préquel, mais en même temps, on est dans la continuité, parce qu'on voit le passé tout en étant le présent. Donc en gros, on est à la suite de la saison 2.
Ok.
Et bah, du coup, on voit un peu le passé de comment
était la reine. Donc on a des prolepses qui permettent d'expliquer ce qui se passe dans la
c'est
saison.
C'est ça.
Mais c'est une sorte de saison 2,5.
Bah ouais, on est un peu ça. Ça va permettre à la saison 3 de venir. Et bah, du coup, on est sur vraiment en plus quelque chose d'assez fidèle. Pour, bah, c'est l'histoire de Charlotte d'Angleterre avec le roi George III. Et bah, c'est assez fidèle de ce qu'est l'histoire de base. Et bon, après, on a un peu de la liberté sur certains trucs, forcément, vu que bah, c'est un peu à l'époque, on n'a pas trop d'écrit là-dessus. Mais on est un peu bah, sur la même ambiance Bridgerton, où on est un peu sur de la romance, des intrigues un peu drame, famille noble et tout. C'est un peu mes feux de l'amour à moi pour ça.
Voilà. Voilà. C'est ça, une bonne sucrerie. Voilà, très très suivi, il y a énormément de monde qui regarde.
Ouais, c'est impressionnant. Une sucrerie plus agréable que Emily in Paris. Ouais.
Passons. Ne parlons pas d'un autre exorcisme à faire. C'est un avis, hein, mais bref. Et ce qui est bien, c'est que bah, cette série, vu que bah, les autres saisons de Bridgerton, on a quand même la place de l'homme qui est imposante. Là, on suit trois personnages féminins majeurs.
Et vaccinés.
Et non, là, on est quand même bah, sur l'historique. Et puis, bah, on a quand même une envie de montrer que bah, la femme adulte, plutôt en s'approche de l'âge, enfin de la vieillesse on va dire,
okay,
qui essaye bah, de montrer bah, que bah, une femme ça a du pouvoir. Donc okay, c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pratique aussi avec la monarchie anglaise où on n'a ouais, jamais mis de côté les femmes du trône quoi.
Ouais, et puis bah, c'était plutôt sympa, ça se regarde bien, c'est pas trop compliqué. Et puis bah, forcément, dit série Netflix, dit ah il faut de l'audimat vite, mettons une scène de sexe par-ci par-là, regardez. Mais voilà, c'était ça surtout. Mais sinon, c'était bien, sympa.
Ok. Moi, je vous parle de 86, essentiellement. Un animé, une série animée où en fait, on se retrouve dans un monde en conflit. On est une nation crypto-fasciste, clairement, où en fait, ne peuvent être au cœur des 85 districts de cette ville-nation que des gens aux cheveux blancs et aux yeux argentés, enfin voilà, à la peau blanche, et qui engagent typiquement, normalement, des handlers qui sont des espèces de chefs d'escadron qui sont censés piloter des drones. Et ces drones, en fait, s'avère qu'ils ne sont pas vraiment des drones, puisque cette nation est censée être attaquée par d'autres drones qui sont pilotés par une intelligence artificielle. Ces personnes en fait, qui pilotent des drones, en fait, les drones en fait, sont des armures mobiles, des sortes de mécas, qui sont pilotés en réalité par les habitants du 86e district, qui sont tous ceux qui ne correspondaient pas au canon de beauté des 85 premiers districts. Et en fait, on suit l'histoire d'une handler et d'un pilote qui s'appelle le Undertaker, et du coup, qui vont arriver à plus ou moins, je ne vais pas dire renverser l'État, parce que finalement quand on va arriver, donc il y a deux axes dans la saison, enfin elle se divise en deux catégories. Il n'y a pas de renversement du pouvoir, mais eux vont arriver à s'émanciper et à enfin voilà, je vous amène jusqu'à la première moitié, je vous laisserai découvrir la deuxième moitié comment derrière après d'autres choses interviennent. Mais c'est plutôt bien foutu sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, sur les oppressions, les opprimés sont appelés les porcs, et voilà, mais qu'est-ce que c'est qu'un porc, enfin voilà. Donc du coup, on a aussi ce langage un peu qui fait écho à notre langage typique du les pigs, porc, flic, assassin, enfin voilà, on est vraiment sur on est un peu sur une métaphore des dérives crypto-fascistes de nos sociétés modernes, voilà.
C'est de la japanimation.
C'est en japanimation.
Ça me fait penser à une autre œuvre, mais alors par contre, je suis désolé, le titre ne me revient pas. Un film d'animation japonais aussi, où c'est des enfants qui pilotent des avions, une guerre. Et c'est il me semble, du réel de Ghost in the Shell.
Mamoru Oshii.
Oui.
Je sais pas.
Alors ça vous dit rien là pour l'instant.
Les enfants pilotes.
C'est Masamu. Shiro.
Je confonds toujours les deux.
Ouais, ce que tu me décris, ça fait penser à Jinro, la brigade des.
Non, je pensais
parce
pas.
Parce qu'il y a un peu, il y a un peu de Jinro dans 86.
Ouais. Non, là c'était tout simplement des jeunes plutôt adolescents.
Okay.
Qui sont tous embrigadés bien sûr pour faire la guerre et une guerre dont finalement ils savent même pas pourquoi. Et il y a tout un truc sur cette absurdité qui, en fait, n'en est pas tout à fait une, dans le sens où ça alimente les caisses.
Enfin, tout à fait.
Enfin bref. On retrouvera le titre.
Oui,
on en reparlera à la prochaine émission. Il nous reste malheureusement 30 secondes. Je vous laisse avec DJ Vadim, Go Get It, feat Yadan Blackmoor. Et puis derrière, ça sera Chip Meadows. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao.
Bonne soirée.
Salut. Ciao.
Yo, Vadim, do me thing, I'm in a watch, nothing. I do this for my family, my motivation. I keep my money, that's my affirmation. Yeah, that's my affirmation. Go get it, don't stop it. Keep the vibes up, man, I take off like a rocket. Go get it, don't stop it. Man, I profit, so me must make a profit. I get my money now.